Alfred de Musset, première poésie, Le Saule, partie 1 et 2. Il se fit tout à coup le plus profond silence quand Georgina Smolen se leva pour chanter. Miss Smolen est très pâle. Elle arrive de France et regrette le sol qu'elle vient de quitter. On dit qu'elle a 16 ans. Elle est américaine, mais dans ce beau pays dont elle parle à peine, jamais deux yeux plus doux n'ont du ciel le plus pur sondé la profondeur et réfléchi l'azur. Faible et toujours souffrante, ainsi qu'un diadème, elle le laisse à demi sur son front orgueilleux, en longues tresses d'or tombaient ses longs cheveux. Elle est de ces beautés dont on dit qu'on les aime, moins qu'on ne les admire. Un noble, un chaste cœur, la volupté pour mère y trouva la pudeur. Bien que sa voix soit douce, elle a sur le visage, dans les gestes, l'abord et jusque dans ses pas, un signe de hauteur qui repousse l'hommage. Soit tristesse ou dédain, mais qui ne blesse pas, dans un âge rempli de crainte et d'espérance, elle a déjà connu la triste indifférence. Cette fille du temps, qui pourrait cependant se lasser d'admirer ce front triste et charmant dont l'aspect seul éloigne et guérit toute peine, tant son puissant hélas sur la misère humaine, ces deux signes jumeaux de paix et de bonheur, jeunesse de visage et jeunesse de cœur. Chose étrange à penser, il paraît difficile au regard le plus dur et le plus immobile de soutenir le sien. Pourquoi ? Qui le dira ? C'est un mystère encore. De ce regard céleste, l'atteinte allant au cœur est sans doute funeste et devra coûter cher à qui la recevra. Miss Mullen commença. L'on ne voyait plus qu'elle. On connaît ce regard qu'on veut en vain cacher, si prompt, si dédaigneux, quand une femme est belle. Mais elle ne parut le fuir ni le chercher. Elle chanta cet air qu'une fièvre brûlante arrache comme un triste et profond souvenir d'un cœur plein de jeunesse et qui se sent mourir. Cet air qu'en s'endormant Desdémone tremblante, posant sur son chevet son front chargé d'ennui, comme un dernier sanglot, soupir au sein des nuits. D'abord, ces accents purs, empreints d'une tristesse qu'on ne peut définir, ne semblaient remontrer qu'une faible langueur et cette douce ivresse où la bouche sourit et les yeux vont pleurer. Ainsi qu'un voyageur couché dans sa nacelle, qui se laisse au hasard emporter au courant, qui ne sait s'il arrive perfide ou fidèle, si le fleuve à la fin devient lac ou torrent. Ainsi la jeune fille, écoutant sa pensée, sans crainte, sans effort, et par sa voix bercée, sur les flots enchantés du fleuve harmonieux, s'éloignait du rivage en regardant les cieux. Quel charme l'exerçait! Comme tous les visages s'animaient tout à coup d'un regard de ses yeux. Car, hélas, que ce soit la nuit dans les orages, un jeune rossignol pleurant au fond des bois, que ce soit l'archet d'or, la harpe éolienne, un céleste soupir, une souffrance humaine, quel est l'homme aux accents d'une mourante voix, qui, lorsque pour entendre il a baissé la tête, ne trouve dans son cœur même au sein d'une fête, quelques larmes à verser, quelques doux souvenirs qui s'allaient effacer et qu'il sent revenir. Déjà le jour s'enfuit, le vent souffle, silence. La terre brise, étend, précipite les sons, sous les brouillards du soir, le meurtrier s'avance. Invisible combat de l'homme et des démons. Alexio Iago, Cassio meurt sur la place. Est-ce un pêcheur qui chante? Est-ce le vent qui passe? Écoute, Marie Borne, il n'est pire douleur qu'un souvenir heureux dans les jours de malheur. Mais lorsqu'au dernier chant la redoutable flamme, pour la troisième fois, vient repasser sur l'âme, déjà prête à se fondre, et que dans sa frayeur elle presse en criant sa harpe sur son cœur, la jeune fille alors sentit que son génie lui demandait des sons que la terre n'a pas. Soulevant par sanglots des torrents d'harmonie, mourante, elle oubliait l'instrument dans ses bras. Ô Dieu, mourir ainsi, jeune et pleine de vie. Mais tout avait cessé, le charme et les terreurs, et la femme en tombant ne trouva que des pleurs. Pleure, le ciel te voit, pleure, fille adorée. Laisse une douce larme au bord de tes yeux bleus briller en s'écoulant comme une étoile aux cieux. Bien des infortunés dont la cendre est pleurée ne demandaient pour vivre et pour bénir leurs maux qu'une larme, une seule, et de deux yeux moins beaux. Échappant au regard de la foule empressée, Miss Mollens s'éloignait, la rougeur sur le front. Sur le bord du balcon, elle resta penchée. Oh, qu'il a bien connu ce mouvement profond, ce charme irrésistible, intime, auquel se livre un cœur dans ces moments de lui-même surpris, qu'au premier battement un doux mystère enivre. Jeune fleur qui s'entr'ouvre à la fraîcheur des nuits. Fille de la douleur, harmonie, harmonie, langue que pour l'amour inventa le génie, qui nous vint d'Italie et qui lui vint des cieux. Douce langue du cœur, la seule où la pensée, cette vierge craintive et du nombre offensé, passe en gardant son voile et sans craindre les yeux. Qui sait ce qu'un enfant peut entendre et peut dire dans tes soupirs divins et de l'air qu'il respire, triste comme son cœur et doux comme sa voix. On surprend un regard, une larme qui coule. Le reste est un mystère ignoré de la foule, comme celui des flots, de la nuit et des bois. Oh, quand tout a tremblé, quand l'âme tout entière, sous le démon divin, se sent encore frémir, pareil à l'instrument qui ne peut plus se taire, et qui d'avoir chanté semble longtemps gémir. Et quand la faible enfant que son délire entraîne, mais qui ne sait d'amour que ce qu'elle en rêva, vint à lever les yeux, la belle américaine qui dérobait les siens, enfin, les souleva. Sur qui? Bien des regards, ainsi qu'on peut le croire, comme un regard de reine avait cherché le sien, que de faux orgueilleux qui s'en se feraient fait gloire. Sur qui donc? Pauvre enfant, le savait-elle bien? Ce fut sur un jeune homme, à l'œil dur et sévère, qui la voyait venir et ne la cherchait pas, qui, lorsqu'elle emportait une assemblée entière, n'avait pas dit un mot ni fait vers elle un pas. Il était seul, debout, un étrange sourire, sous de longs cheveux blonds, des traits efféminés. À ceux qui l'observaient, son regard semblait dire: on ne vous croira pas si vous me devinez. Son costume annonçait un fils de l'Angleterre. Il est dit-on d'Oxford. Né dans l'adversité, il habite le toit que lui laissa son père, éprouve un noble sang par l'hospitalité. Il se nomme Tiburce. On dit que la nature a mis dans sa parole un charme singulier, mais surtout dans ses chants, que sa voix triste et pure a des sons pénétrants qu'on ne peut oublier. Mais à compter du jour où mourut son vieux père, quoi qu'on fît pour l'entendre, il n'a jamais chanté. D'où la connaissait-il? Ou quel secret mystère tient sur cet étranger son regard arrêté? Quel souvenir ainsi l'émet d'intelligence? S'il la connaît, pourquoi ce bizarre silence? S'il ne la connaît pas, pourquoi cette rougeur? on ne sait. Mais son œil rencontra l'œil timide de la Vierge tremblante, et le sien plus rapide sembla comme une flèche aller chercher le cœur, et ce ne fut qu'un éclair. L'invisible étincelle avait jailli de l'âme, et Dieu seul l'avait vue. Alors, baissant la tête, il s'avança vers elle et lui dit « M'aimes-tu, Georgette? M'aimes-tu ? » Tandis que le soleil s'abaisse à l'horizon, Tiburce semble attendre au seuil de sa maison l'heure où dans l'océan l'astre va disparaître. À travers les vitraux de la sombre fenêtre, les dernières lueurs d'un beau jour qui s'enfuit percent encore de loin le voile de la nuit. Deux puissants destructeurs ont marqué leur présence dans le manoir désert du pauvre étudiant. Le temps et le malheur. Tu gardes le silence, vieux séjour des guerriers, autrefois si bruyant, dans les longs corridors qui se perdent dans l'ombre, où de tristes échos répètent chaque pas, se mêlaient autrefois des serviteurs sans nombre, la coupe des festins égaya les repas. Une lampe qu'au loin on aperçoit à peine prouve que de ces murs un seul est habité. Ainsi tombe et périt le féodal domaine. Ici la solitude, ici la pauvreté. Ce sont les lourds arceaux d'un vieux laboratoire que Tiburce a choisi. Non loin est un caveau, peut-être une prison, peut-être un oratoire, car rien n'approche autant d'un hôtel qu'un tombeau. Là, dans le vieux fauteuil de la noble famille, où les enfants brillaient, où mouraient les vieillards, s'agenouilla jadis plus d'une chaste fille que poursuivaient des yeux de lointains étendards. Plus tard, c'est encore là qu'à l'heure où le coq chante, demandant au néant des trésors inouïs, l'alchimiste courbé d'une main puissante frappa son front ridé dans le calme des nuits. Le philosophe oisif disséqua sa pensée. La science d'aujourd'hui, rencontrant sous ses pieds des vestiges poudreux d'une route effacée, sourit aux vains efforts des siècles oubliés. Sur le chevet du lit pend cette triste image où Raphaël, traînant une famille en deuil, dépose l'homme-dieu de la croix au cercueil. Sa mère de ses mains veut couvrir son visage. Ses bras se sont roidis et, pour la ranimer, ses filles n'ont hélas que leur sainte prière. Ah, blessure du cœur, votre trace est amère. Prontes à vous ouvrir, lentes à vous fermer. Ici, c'est Jéricho et sa palette ardente. Mais qui peut oublier cette fausse Judith et dans la blancheur main d'une perfide amante, la tête qu'en mourant à l'oreille suspendit. Et plus loin, la clarté d'une lampe sans vie agite sur les murs, dans l'ombre appesantie, un marbre mutilé. Père d'un temps nouveau, ta mémoire au héros ne sera point troublée. Ton image se cache et doit rester voilée sous la terre où l'on boite encore à Waterloo. Les arts, ces dieux amis, fils de la solitude, sont rois sous cette voûte. Auprès d'eux, l'humble étude vient d'un baiser de père assurer la douleur. Et toi surtout, et toi, triste fidèle ami, à qui l'infortuné dans ses nuits d'insomnie dit tout bas ses secrets qui dévorent le cœur, toi, déesse des champs, à qui dans son supplice la douleur tend les bras, criant « Consolatrice, consolatrice !» À l'âge où la chaleur du sang fait éclore un désir à chaque battement, où l'homme, apercevant des portes de la vie la mort à l'horizon, s'avance et la défie, parmi les passions qui viennent tour à tour s'asseoir au fond du cœur sur un trône invisible, la haine, l'intérêt, l'ambition, l'amour. Tibérius n'en connaît qu'une, la plus terrible. Jusqu'à ce jour, du moins, le sillon l'a senti. Des autres que le germe, une seule a grandi. Quant à cette grande et froide maladie, misérable cancer d'un monde qui s'en va, ce facile mépris de l'homme et de la vie, nul de l'avoir connu jamais ne l'accusa. Alors pourquoi cherchait-il ainsi la solitude? On le sait. Dès longtemps, il chérissait l'étude. Autrefois ignoré, mais content de son sort, il marcha sur les pas de ceux à qui la mort révèle les secrets de l'être et de la vie. Incliné sous sa lampe, infatigable amant, d'une science aride et longtemps poursuivie, on le voyait la nuit écrire assidûment, ou quelquefois encore, quand l'astre au front d'albâtre efface les rayons de son disque incertain, il n'osait, oubliant sa tâche opiniâtre, étudier les lois de ces mondes sans fin, flot d'une mer de feu sur nos fronts balancés, et que l'on put compter ni l'œil ni la pensée. Mais hélas, que de jours, que de longs jours passés ont vu depuis ce temps ses travaux délaissés. Renfermé dans les murs où mourut son vieux père, depuis plus de 2 ans, sous son toit solitaire, il vit seul, loin des yeux, heureux, car ses amis, en calculant les jours, n'ont point compté les nuits. Peut-être en se cachant voulait-il le silence. Qui savait ses projets? Nul ne connaît celui qui le fait sur le seuil demeurer aujourd'hui. Mais la nuit à grands pas sur la terre s'avance, et les ombres déjà que le vent fait frémir sur le sol obscurci semblent se réunir. Le repos par degrés s'étend sur les campagnes. L'astre baisse, il s'arrête au sommet des montagnes, jette un dernier regard aux cimes des forêts et meurt. Les nuits d'hiver suivent les soirs de près. Quelques groupes épars d'oisives, de jeunes filles, de joyeux villageois regagnant la cité, se distinguent encore malgré l'obscurité. Sur le chauve habité par de pauvres familles, des feux de loin en loin enfument les vieux toits, noircis par l'eau du ciel dont dégoûtent les bois, tandis que des enfants, la voix fraîche et sonore, montant avec l'encens de la maison de Dieu, au bruit confus des mers au loin, se mêle encore et fait frémir au vent les vitraux du Saint-Lieu. Quelques refrains grossiers que l'on entend à peine rappelle au passant le jour du samedi. Le buveur nonchalant a laissé loin de lui l'artisan de la veille, obsédé par la gêne, qui, baignant de sueur chaque morceau de pain, travaillant pour le jour, doute du lendemain. L'oubli, ce vieux remède à l'humaine misère, semble avec la rosée être tombé des cieux. Ce souvenir, hélas, oublié, c'est sur terre ce qui, selon les jours, nous a fait jeunes ou vieux. Tibur se contemplait cette bizarre scène. Son œil, sous les vapeurs, apercevait à peine les fantômes mouvants qui passaient devant lui. Dieu juste, sous ses toits, que d'humbles destinées, s'achevant en silence ainsi qu'elles sont nées. Et Tibur se pensa qu'il était pauvre aussi. Ah, pauvreté marâtre! À qui donc est utile celui qui d'un sein maigre a bu ton sel stérile? À quoi ressemble l'homme ignoré du destin, qui reprenant le soir son sentier du matin, marchant à pas comptés dans sa vie inconnue, s'endort quand sur son toit la nuit est descendue? Peut-être être sage. Un moins pesant fardeau courbe plus lentement son front jusqu'au tombeau. mais celui qu'un fatal et tout-puissant génie livre dans l'ombre épaisse à la mâle insomnie, celui qui pour souffrir ne se reposant pas vit d'une double vie. Oh, qu'est-il ici-bas? Pareil à l'ange armé du saint glaive de flamme, l'invincible pensée a du seuil de son âme chassé le doux sommeil comme un hôte étranger. Seule elle y règne, et n'est pas longue à la changer en une solitude immense et plus profonde que les déserts perdus sur les bornes du monde. Mais silence, écoutez, c'est le son du beffroi. Tiburce s'est levé. L'heure de la prière, dit-il, soit. C'est mon heure, ils prieront Dieu pour moi. Il marche, il est parti. Le jour et la lumière des sinistres projets sont mauvais confidents. Là, les audacieux sont nommés imprudents. La pensée, évitant l'œil vulgaire du monde, s'enfuit au fond du cœur. La nuit profonde vient seule relever à l'heure du sommeil les fronts qui s'inclinaient aux rayons du soleil. Pâle étoile du soir, messagère lointaine dont le front sort brillant des voiles du couchant, de ton palais d'azur au sein du firmament, que regardes-tu dans la plaine? La tempête s'éloigne, les vents sont calmés, la forêt qui frémit pleure sur la bruyère, le phalène doré dans sa course légère traverse les prés embaumés. Que cherches-tu sur la terre endormie? Mais déjà vers les monts je te vois t'abaisser. Tu fuis en souriant, mélancolique ami, et ton tremblant regard est près de s'effacer. Étoile qui descend sur la verte colline, triste larme d'argent du manteau de la nuit, toi qui regardes au loin le pâtre qui chemine, tandis que pas à pas son long troupeau le suit. Étoile, où t'en vas-tu dans cette nuit immense? Cherches-tu sur la rive un lit dans les roseaux? Où t'en vas-tu si belle à l'heure du silence, tombée comme une perle au sein profond des eaux? Ah, si tu dois mourir, bel astre, et si ta tête va dans la vaste mer plonger ses blonds cheveux, avant de nous quitter, un seul instant arrête, étoile de l'amour, ne descends pas des cieux.